France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2009, quand il montait au Festival d'Avignon Angelo, tyran de Padoue, de Victor Hugo, Christophe Honoré était déjà depuis quelques années un réalisateur remarqué de sa génération pour des films comme 17 fois Cécile Cassard, Dans Paris ou Les chansons d'amour. Pourquoi, pour ses débuts de metteur en scène au théâtre, avait-il choisi une pièce de Victor Hugo? Et pourquoi précisément Angelo, tyran de Padoue, l'un des titres de l'œuvre théâtrale d'Hugo les plus rarement montés? En février 2010, Joël Gaillot posait ses questions à Christophe Honoré dans les Mercredis du théâtre. Christophe Honoré, mais aussi Marion l'écrivain, disait ce que représentait Victor Hugo, ce qu'était la modernité de son œuvre, pour les jeunes artistes qu'ils étaient en ce début de XXIe siècle. Une émission dans laquelle on entendait Antoine Vitez, Louis Jouvet et Jean Villard dire toute la grandeur de Victor Hugo, tout le bien qu'ils pensaient de lui, mais aussi Paul Léoto, éructant lui le peu d'admiration qu'il avait pour son écriture. Les Mercredis du théâtre, le théâtre de Victor Hugo, une émission diffusée la première fois le 10 février 2010 sur France Culture. Bonjour, bienvenue dans les Mercredis du théâtre. Il fait partie du patrimoine national, ses cendres reposent au Panthéon, il a inspiré les musiciens comme les cinéastes, icône littéraire, monstre poétique, force politique. Victor-Marie Hugo, plus simplement appelé Victor Hugo, a contemplé les yeux dans les yeux au péril de sa liberté le 19e siècle pour nous en livrer un portrait enflammé, tout aussi bien contestataire que prosélyte. L'homme, massif, imposant, objet d'une somme impressionnante d'études et d'analyses, a, entre sa naissance le 26 février 1802 à Besançon et sa mort à Paris le 22 mai 1885, révolutionné l'écriture et bouleversé à jamais l'idée que l'on pouvait jusqu'à lui se faire de ce qu'est un écrivain engagé dans son temps, tout aussi bien attaché à son siècle que profondément visionnaire.
Et vieux, on est jaloux. On est méchant. Pourquoi ? Parce que l'on est vieux. Parce que beauté, grâce, jeunesse dans autrui, tout fait peur, tout menace.
Les Mercredis du théâtre s'attaquent à ce monument de l'histoire des lettres françaises dont les ouvrages parus aux éditions Pléiade remplissent à eux seuls un bon pan de vos étagères et dont les écrits figurent dans tous les programmes scolaires. Dessinateur subtil, photographe amateur, auteur de romans cultes, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, auteur aussi de poésie romantique ou épique, Les Contemplations, La Légende des siècles, Hugo a marqué le théâtre de textes fondamentaux comme Lucrèce Borgia, Hernani ou encore Marion Delorme et Ruy Blas, un théâtre passionnel, historique et actif que les metteurs en scène, toutes tendances et générations confondues, aiment questionner comme si à travers lui, le temps avouait son échec à altérer et démoder ce qui n'est pas d'un présent immédiat.
Hugo, c'est la France, quoi. Mais c'est pas que ça. C'est ludique, c'est beaucoup plus enfantin qu'on ne croit.
Avec nous au micro pour explorer la modernité jamais démentie de Victor Hugo, de nombreuses archives et deux invités. Vous entendrez en fin d'émission Marion l'écrivain, adaptatrice et metteur en scène du roman L'homme qui rit. Marion l'écrivain, rencontrée hors de nos studios et enregistrée en visite à la maison Victor Hugo, située place des Vosges à Paris, un haut lieu touristique de la capitale. Son intervention en forme de déambulation conclura une émission portée à bout de bras par Christophe Honoré, jeune metteur en scène dont le travail sur la pièce Angelo, tyran de Padoue a marqué les esprits l'été passé à Avignon. Ce spectacle, résolument ancré dans le contemporain, extirpe effectivement de la matière théâtrale une forme nettement cinématographique et prouve si nécessaire que Hugo se prête avec bonheur à toutes les manipulations et toutes les contorsions.
Il y a des mots qu'il faut ou bien détruire ou bien réhabiliter. Le mot mélodrame, par exemple, le mot emphase aussi, et même, je réhabiliterai aussi le mot ringard. Ce que je vois là-dedans, c'est en effet une énorme emphase au bon sens du terme, un énorme pathos au bon sens du terme, c'est-à-dire une immense passion.
Les hommes chez ma nièce sont heureux de nuit. Venez tous, cela vaut la lumière et le bruit. Par Saint-Jean d'Avila, je crois que sur mon âme, nous sommes trois chez vous, c'est trop de deux, madame. Mes jeunes cavaliers, que faites-vous, séant ? Quand nous avions le Cid et Bernard, ces géants de l'Espagne et du monde allaient par les Castilles, honorant les vieillards et protégeant les filles. C'étaient des hommes forts qui trouvaient moins lourd leur fer et leur acier que vous, votre velours.
D'abord, le vocabulaire de Hugo, n'est-ce pas, est pour moi une langue barbare.
Hernani, Ruy Blas, les Burgraves vous ennuient.
Ouais, mais, et puis, je trouve ça mal écrit. Quand Ruy Blas fait la scène au ministre et qu'il parle du pays qui cuit pauvre oiseau plumé dans la marmite informe. Une marmite n'est jamais informe, voyons. C'est comme dans les faits divers, depuis on a adopté ça, un monsieur coupe une jeune femme en morceaux, il la enferme dans une malle, la malle devient tragique. Mais non, l'action est tragique, la malle n'a rien de tragique. Eh bien ça c'est du vocabulaire de Victor Hugo.
Mur, ville et port, asile de mort, mer grise où brise la brise, tout dort.
Voilà, premières archives INA, histoire de se mettre dans le bain. On vient d'entendre successivement Antoine Vitesse vantant les mérites de l'écriture hugolienne, puis un extrait de sa mise en scène d'Hernani avec Pierre de Bauche dans le rôle. Et puis, autre son de cloche, c'était Paul Léoto qui, à l'inverse, lui n'est pas du tout emballé par l'écriture de Victor Hugo, avec, derrière Paul Léoto, un exemple significatif de ce qui peut sans doute se faire de pire, ou pouvait se faire de pire avec Victor Hugo. C'est un bout de poème qu'on a entendu, Les Djinns, qui était interprété ici par Robert Manuel. Alors, on comprend très vite, à l'écoute de ces archives, que Victor Hugo aurait très bien pu tomber dans l'oubli à cause des raisons d'ailleurs qui avancent en partie Paul Léoto. Pourtant, il ne se démode pas, ça sera l'objet de ma première question, Christophe Honoré. Pourquoi Hugo ne se démode-t-il pas ? Pourquoi un jeune metteur en scène, vous êtes un cinéaste confirmé, mais vous êtes encore un jeune metteur en scène, décide-t-il de faire son entrée dans la cour des grands au Festival d'Avignon, qui n'était pas la cour d'honneur, mais quand même le festival de théâtre mondial, avec une pièce de Victor Hugo ? Angelo, tyran de Padoue.
Je crois que ça se démode pas, tout simplement aussi parce que le romantisme a, à mon avis, des résonances très fortes avec aujourd'hui, en fait. C'est ça qui est intéressant chez Hugo, parce que en dehors de la langue, et je pense que Léoto, c'est pas un hasard si finalement il attaque la langue d'Hugo, c'est que Léoto est défenseur d'une langue très classique, et justement toute la modernité d'Hugo, en fait, c'est de mélanger une langue comme ça qui a des aspirations très poétiques avec une langue très triviale et très populaire et que ces mélanges finissent par former des impuretés, en fait. Et je pense que Hugo s'amuse énormément de cette manière qu'il a de salir la langue. Et on le voit particulièrement dans son théâtre, en fait. Il y a une vraie jouissance chez Hugo, on va dire, à casser les jouets d'une langue très classique. Si moi, aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment voulu... j'avais vraiment en tête, en fait, à partir du moment où j'ai eu cette proposition du Festival d'Avignon de mettre en scène une pièce de théâtre, c'est vrai qu'ils ne s'attendaient pas, a priori, à ce que je leur propose du Victor Hugo. Je pense qu'ils s'attendaient plutôt à ce que je leur propose un texte de Sarah Kane, ou je sais pas, enfin, une écriture contemporaine. Et ils étaient assez surpris de ça.
Alors, quel est le parcours que vous avez effectué, Christophe Honoré, pour arriver jusqu'à Victor Hugo ?
Ben, déjà, en fait, c'est parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, politiquement parlant, tout simplement, la défense des humanités, on va dire, est vraiment d'actualité. C'était un peu quelque chose, en fait, que j'avais déjà vécu quand j'avais adapté La Princesse de Clèves, en fait, au cinéma. Cette espèce comme ça de manière, en fait, dans un discours politique, culturel dominant, où on aurait tendance comme ça à balayer le passé avec cette idée très naïve que les œuvres du passé n'auraient plus rien à dire à aujourd'hui, en fait, me semble... Enfin, j'ai l'impression que faire entendre ce patrimoine, parce que malgré tout, c'est un patrimoine, en fait, littéraire, est presque un acte de résistance aujourd'hui. Donc, je trouvais que c'était finalement plus courageux et plus valeureux, en fait, d'aller m'attaquer à un texte classique. Et puis après, sur le romantisme, il y a quelque chose, notamment dans la manière dont Hugo le définit dans sa préface de Cromwell, qui me semble très proche des choses que j'ai envie de défendre aujourd'hui. Je dirais d'une manière vraiment purement formelle. On pense toujours que le romantisme, selon Hugo, c'est juste une question de unité de temps, etc. Et c'est pas vrai, en fait. Ce qui l'intéresse principalement, c'est l'idée de l'inachèvement, par exemple. Cette idée comme ça qu'un texte doit être dans l'ordre de l'inachèvement. L'idée de l'impureté, le mélange du sublime et du trivial. Et aussi cette espèce d'utopie, quand même, qui est très forte, en fait, chez Hugo. C'est-à-dire que sa réflexion autour du théâtre est vraiment une utopie par rapport au monde dans lequel il vit. Et ces choses-là me touchaient particulièrement, et donc du coup j'avais une espèce de, enfin je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en fait qui résonnait très très fortement, déjà parce que j'allais dire que le théâtre utopique d'Hugo, juste sur le théâtre, on a l'impression que le théâtre qui réclame, c'est finalement ce qui va arriver un peu plus tard, qui est le cinéma, une espèce comme ça de théâtre qui englobe énormément de choses, où on peut mêler de l'intime et de l'historique, enfin j'allais dire une espèce de théâtre presque sans coulisses, en fait, et qui a assez à voir avec une définition du cinéma. Et puis ce texte-là me permettait, qui est un texte effectivement pas très joué de Victor Hugo, qui est un vrai mélodrame, et je suis assez d'accord avec lui, je suis assez pour le retour du mélodrame, me permettait aussi comme ça, c'est un texte en prose, donc c'était aussi différent. Et il y avait quelque chose autour de l'autorité faite aux femmes, enfin... Lui-même, Hugo, en fait, dans sa préface, définit son texte comme un texte féministe qui me semblait vraiment intéressant, en fait, à travailler.
Ah, vous êtes le magnifique Podesta. Vous avez droit de vie et de mort, toute puissance, toute liberté. Vous êtes envoyé de Venise. Oh, pas sur la bouche. Et partout où l'on vous voit, il semble qu'on voit la face. Et la majesté de cette république. Quand vous passez dans une rue, les fenêtres se ferment, les passants s'esquivent, et tout le dedans des maisons tremble.
Comment est-ce que vous résumeriez, vous, l'intrigue de Angelo Tirampadou, Christophe Honoré? Alors, on va rappeler d'ailleurs la distribution, enfin les trois acteurs principaux de cette distribution, parce que vous faites allusion au cinéma, on va en parler tout à l'heure, mais ce sont quand même des figures aussi cinématographiques pour la plupart d'entre elles. Emmanuel De Vos, Clotilde M et Martial Di Fonzobo. Donc, l'intrigue de Angelo.
Bah, Angelo est un tyran, donc à Padoue, joué par Martial Di Fonzobo. Il a une maîtresse, en fait, qu'il entretient, qui s'appelle la Tisbée. Cette femme, en fait, jouée par Clotilde M. Cette femme, en fait, aime en secret un homme qu'elle a fait rentrer dans la ville et qui a un banni qui s'appelle Rodolfo, joué par Vladislav Galard. Elle le fait passer pour son frère alors qu'il est son amant. Et cet amant, lui, en fait, n'est pas du tout amoureux de la Tisbée. Il est amoureux d'une femme secrète depuis des années, en fait, avec qui il entretient des rapports clandestins sans savoir qui c'est, et qui se trouve être la femme du tyran, Katharina, qui est jouée par Emmanuel De Vos. Donc c'est vraiment, en fait, une circulation des désirs et de gens qui aiment des gens qui aiment quelqu'un d'autre. Et évidemment, la pièce parle principalement d'une... La tyrannie, en fait, est principalement vécue du côté des femmes, c'est-à-dire que s'apercevant en fait de la tromperie, le tyran va finir par mettre à mort sa femme, et c'est la maîtresse qui va se sacrifier en fait pour pouvoir sauver la femme du tyran, et par la même façon sauver aussi son amant.
Vous avez lu beaucoup de textes de Hugo avant d'arriver à Angelo Tirampadou?
Oui, j'en ai lu pas mal.
Vous faisiez allusion à la préface donc de Cromwell, qui est cette espèce de monument injouable, d'ailleurs, qui n'est pas joué, hein, puisque ça fait 6000 vers, je crois.
Ouais, d'ailleurs.
Et ça a été sa première pièce, ou une de ses premières pièces à Victor Hugo.
C'est vrai que moi, j'espère qu'un jour ce sera joué, notamment à Avignon. Ce serait vraiment le lieu idéal, en fait, parce que
Cromwell.
Après, bah oui, parce qu'on joue le soulier de satin, pourquoi on jouerait pas Cromwell après tout. Après, oui, j'ai lu plusieurs pièces de Hugo. Moi, j'aimais beaucoup Marion Delorme. Et puis, malgré tout, en fait, c'était une première mise en scène. J'avais pas tellement envie de m'embarrasser, parce que, et je le dis, c'est peut-être aussi un défaut, mais du contexte historique de beaucoup de pièces de Hugo, en fait. Une pièce comme Marion Delorme, vraiment, on peut pas la franchir du compte. C'est presque une pièce sur le duel et au moment de Louis XIII. Donc, on peut pas la sortir, en fait, de ce contexte historique.
Alors, vous avez prononcé plusieurs mots, Christophe Honoré, sur lesquels on va revenir. Vous avez parlé, du romantisme, notamment de Victor Hugo. J'aimerais qu'on revienne aussi à ce mot-là. Mais avant cela, passons de nouveau par quelques extraits retrouvés à l'INA d'archives, de voix anciennes et de certains commentateurs de Victor Hugo bien placés pour le commenter, Louis Jouvet notamment et Jean Villard.
Il faut le dire, jusqu'à Hernani, depuis 40 ans, la France était sans œuvre dramatique. Depuis 40 ans que les auteurs dramatiques écrivaient en vers, pas un poète ne figurait parmi eux. Le nouveau venu Victor Hugo prit figure de génie. Alors que le mélodrame s'épuisait dans sa propre caricature, que le classicisme tombait en poussière, quelques jeunes écrivains, dans le feu de la 25e année, servis par une chance extraordinaire, par l'adhésion subite d'un public, par des acteurs compréhensifs, ont fait renaître le vieux phénix de ses cendres. Le théâtre va renaître. Victor Hugo domine son époque. Il est le théoricien et le grand prêtre de cette nouvelle religion dramatique. Avec l'ostentation qu'il apporte à toute chose et qui outrepasse toujours les buts fixés. Il manquera de la discrétion plus efficace de Musset et de Mérimée. Le sens dramatique qui habitait Balzac lui fera défaut. Il n'en est pas moins le prototype de l'auteur romantique. Comme il sera sur son rocher de Guernesey, le prototype de l'exilé, et plus tard, à Barbe Blanche, le prototype du grand-père.
Très amoureuse, c'est vrai. Et par conséquent, très jalouse.
L'Italien l'a ensorcelée. La reine est amoureuse.
Moi, je pense que Hugo, comme nous disons, le père Hugo, et c'est ce dont il faut louer Bernard Gény, est un auteur que l'on devrait jouer, au moins une pièce une fois chaque deux ans, pour ne pas dire chaque année. Après tout, il n'a pas écrit tellement de pièces de théâtre. Il y a un public Hugo en France, et ce public ignore qu'il est un public amoureux de Hugo. Peut-être une partie du public qui aime aller au théâtre pour voir certaines choses, disons, légères, ou bien au contraire, un théâtre d'une pensée plus contemporaine, bien sûr, qui n'aime pas tellement le drame historique, n'ira pas aux pièces de Hugo. Mais je pense que la majorité du public est un public qui ira voir les pièces de Hugo. Il y a vraiment une barrière de jugement de nos grands-pères ou de nos pères, oui, qui fait que non, n'est-ce pas? On a eu la grande période naturaliste et qui a coupé du théâtre de Hugo, qui est tout de même un théâtre de spontanéité, le théâtre d'un poète aussi, ne l'oublions pas, il n'y a pas que les pièces en prose. Et là, il y a eu ce naturalisme, ensuite il y a eu une autre école de théâtre. Je pense, moi, que je continue à penser que nous y reviendrons, qu'on y revient et qu'on rejouera Hugo.
Voilà, vous avez entendu Jean Villard qui finalement, Christophe Honoré, annonçait le retour de Victor Hugo à Avignon. C'est d'ailleurs un extrait de Marie Tudor dans la Cour d'honneur Avignon, dans la mise en scène de Villard qu'on entendait également. C'était en 1955 et c'est Louis Jouvet qui ouvrait cette petite séquence d'archives consacrée à Hugo. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la préface de Cromwell que vous avez lu, que vous connaissez, en passant quand même sans doute un petit peu trop vite pour les auditeurs sur justement ce que Hugo pose comme préalable au théâtre qu'il va écrire dans cette préface. Christophe Honoré, j'aimerais bien qu'on revienne quand même à justement ce à quoi Victor Hugo s'est attaqué par rapport à tout le théâtre classique qu'il a d'une certaine manière malmené et qu'il allait totalement bouleverser.
Ce qui est assez étonnant, parce qu'on le voit bien en fait dans les préjugés que les gens ont aujourd'hui sur Hugo, c'est que l'objectif principal de Hugo, c'était quand même de remettre de la vie dans le théâtre, contrairement au théâtre classique. Et dans cette idée de remettre de la vie au théâtre, ça passait principalement par un travail autour du grotesque et du trivial, donc du comique. Et c'est vrai qu'il y a énormément de, quelles que soient les pièces, même les pièces les plus tragiques ou mélodramatiques de Hugo, en fait, il y a toujours des moments très comiques. Et après, en fait, cette manière qu'il a de vouloir rechercher en fait la vie, c'est vraiment de frotter justement ces moments très grotesques ou très triviaux avec des moments de pure beauté, en fait, qui recherche, et de travailler autour de... C'est-à-dire non pas dans l'alternance, c'est ça que nous on s'en est énormément aperçu en fait quand on était en répétition en fait, on peut pas dire qu'il y a chez Hugo par exemple une scène drôle pour dire vite et puis après derrière une scène avec une espèce comme ça de déclaration d'amour. C'est au cœur même en fait des monologues, au cœur même en fait des scènes.
Vous dites au cœur ou au corps, Christophe Honoré?
Non mais au corps aussi, parce que c'est vrai que c'est des je voulais dire au cœur hein, mais
et j'ai entendu au corps.
c'est des failles en fait, c'est là-dessus qu'Hugo a travaillé dans les formes, sur l'inachèvement aussi en fait. Moi, j'aime. Alors, c'est vrai que c'est peut-être
Qu'est-ce que vous appelez l'inachèvement? Parce que lorsqu'on lit ses pièces, il en a écrit un certain nombre. Hernani, Marion Delorme, Le Roi s'amuse, Lucrèce Borgia, j'en profite pour les citer. Hein. Marie Tudor, Angelo, Ruy Blas, Les Burgraves, Torquemada. entre autres. Qu'est-ce qu'il y aurait d'inachevé dans ces pièces qu'on peut lire en Pléiade ou dans d'autres collections chez Robert Laffont aussi, bon, qui ont toutes les apparences de l'achèvement? Où est l'inachevé dans la texture hugolienne, Christophe Honoré?
Je pense que ça, c'est dans la manière qu'il a. Il a à la fois une très grande dextérité, en fait, pour faire venir comme ça les personnages sur scène. Par exemple, dans Angelo, tyran de Padoue, donc à partir du moment où le tyran Angelo en fait s'aperçoit que sa femme l'a trompé en fait et refuse de donner le nom de son amant, il la met à mort et une fois en fait qu'elle est mise à mort, il s'en lave un peu les mains et il disparaît vraiment de la pièce. Et on a la pièce est loin d'être terminée en fait, on a encore un quart de pièce qui existe où l'enjeu principal qui était quand même normalement la reprise de l'autorité, enfin l'assurance de l'autorité, est complètement laissé à côté. Et je ne peux pas penser que c'est une faiblesse dramaturgique chez Hugo. Je pense que c'est vraiment au contraire quelque chose de très délibéré, c'est-à-dire qu'à un moment en fait, et je pense que là il est dans la modernité, c'est pas, je vais dire un exemple, ça se voit mieux dans les films en fait des fois ce genre de choses, c'est quand soudain, par exemple, un personnage secondaire vampirise le récit, et puis il y a une sorte de digression qui fait qu'on suit toujours un personnage secondaire et on oublie en fait l'intrigue principale. Et ben chez Hugo en fait il y a énormément en fait de manières comme ça de jouer, d'abandonner les personnages principaux et d'être a priori sur des intrigues beaucoup plus secondaires, mais qui sont en fait le cœur, à mon avis, de ce qu'il veut exprimer. Et ça, c'est vraiment une conception du monde en tant que chaos, et non pas une conception du monde ordonnée. Je pense que chez Racine, et Hugo admirait Racine, hein, quand il attaquait le classicisme, c'était pas le classicisme de Racine, mais chez Racine, il y a cette idée d'un monde qui est ordonné, d'un monde qui est la tragédie, de toute façon, dans cette idée de... La tragédie raconte toujours des catastrophes qui sont annoncées. En tout cas, il y a l'idée du plan. Je sais pas trop comment exprimer ça. Alors que chez Hugo, a priori, le plan est très très désordonné. Et c'est aussi ce qui fait pour moi sa modernité et son intérêt en fait. C'est dans ce sens-là en fait que je parle d'inachèvement. C'est-à-dire qu'il n'a pas un monde préconçu en tête en fait qui voudrait expliquer ou présenter au spectateur. Il n'a pas cette prétention-là. Au contraire, je pense qu'il a une idée très moderne justement du monde tel un chaos qu'on peut retrouver en littérature au XXe siècle, presque j'allais dire chez Beckett, etc. Justement, c'est cette idée comme ça de ne pas présenter le monde d'une manière ordonnée. On avait fait en fait une rencontre avec Daniel Ben Saïd justement autour de cette idée du manifeste, par exemple, parce que j'étais très surpris aussi quand j'ai relu Hugo, qui faisait tout le temps des préfaces pour expliquer exactement ce que racontait chacune de ses pièces. Et puis on s'était dit, mais pourquoi aujourd'hui il y a de moins en moins de manifestes esthétiques qui sont aussi des manifestes politiques. Et donc on en parlait justement en fait avec Daniel Ben Saïd, cette espèce comme ça de... Cette manière qu'ont les artistes d'aujourd'hui de se priver d'expliquer ce qu'ils font et de refuser aussi de l'inscrire dans un mouvement plus, dans un dessin en tout cas plus général. Et on s'était aperçu que aujourd'hui il y avait quand même une espèce de post-romantisme justement sur une utopie en fait qui ne cherche pas à prendre le pouvoir dans les mouvements altermondialistes, etc., est une utopie de pure contestation, qui est assez proche en fait de ce que pouvait justement aussi défendre Hugo en fait. C'est-à-dire, on voit bien que c'est toujours dans, c'est pas, il ne propose pas en fait des systèmes pour remplacer d'autres systèmes. Et je parle pas uniquement de systèmes politiques. C'est toujours de l'ordre du combat en fait. C'est ce qui intéresse Hugo. Et je pense que là-dedans aussi, il y a une vraie modernité en fait chez lui.
Alors, modernité donc qui passe, vous venez de le dire, par une sorte d'explosion de l'unité d'action, explosion de l'unité de lieu et explosion de la troisième règle, unité d'action, unité de temps et unité de lieu. Et l'explosion d'unité de lieu, J'imagine que vous, en tant que cinéaste, c'est aussi quelque chose qui vous a fortement intéressé, Christophe Honoré, puisque, effectivement, quand on ouvre une pièce de Hugo, ça ne se passe pas dans une seule et même pièce, mais il démultiplie complètement l'action, il brouille les pistes, là aussi, il enchevêtre complètement les lieux, il y a une circulation, il y a un mouvement, il y a une fluidité aussi qui est propre à cette écriture de Victor Hugo.
Oui, oui, il le fait parfois, enfin, pour le coup, cette pièce Angelo Tirant de Padoue, on sent qu'il... Parce que c'est une pièce aussi qui voulait rejouer la Comédie Française et tout ça. Donc,
faudrait qu'on en parle aussi. Il y a le déchirement de Hugo entre le théâtre de la Porte Saint-Martin et la Comédie Française.
Et donc, donc c'est une pièce où qui finalement, en termes d'unité, est un peu plus resserrée.
Parce qu'elle a été proposée aux Français, au théâtre français, et qu'il fallait s'adresser à un public plus convenu, disons.
Plus convenu. Après, moi, c'est vrai qu'en tout cas, en tant que cinéaste, ça m'a vraiment intéressé parce qu'évidemment, l'acte principal, on va dire, d'un cinéaste, c'est de choisir ce qu'il montre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué, en fait, au théâtre, à moins d'être très dictateur, on va dire, par rapport au spectateur. Le spectateur de théâtre, en tout cas moi, tel que peut-être naïvement je l'idéalise, au contraire choisit ce qu'il voit. Et c'est vrai que j'ai voulu du coup avec Hugo, j'avais cette possibilité-là d'offrir en fait au spectateur différents plans.
Alors puisqu'on faisait allusion au théâtre français au théâtre de la Porte Saint-Martin, je vous propose d'écouter de nouveau Louis Jouvet qui fait lui-même référence à la querelle des acteurs qui avaient parfois du mal à s'emparer de la prétendue modernité de Victor Hugo. La langue leur posait problème et ça donnait lieu à parfois des combats assez homériques. C'est Louis Jouvet donc.
Victor Hugo est impatient, il écrit alors en une semaine Hernani ou l'honneur castillan. Ce fut le Cid romantique. La première représentation eut lieu le 25 février 1830 et fut une vraie bataille. Les répétitions de la pièce s'étaient passées en escarmouche entre l'auteur et sa principale interprète, Mademoiselle Mars. Celle-ci refusait obstinément de dire le vers célèbre « Vous êtes mon lion, superbe et généreux ». Elle voulait bien dire mon héros ou mon seigneur, mais pas mon lion, ça la choquait. Alors Hugo tenait au lion, l'actrice rendait son rôle, Hugo acceptait, puis l'actrice se ravisait. Et chacun jouait une partie serrée et comique où se débattaient des droits, des respects et des préséances réciproques. Mademoiselle Mars consentit enfin au lion, mais ce ne fut qu'une trêve. Le soir de la générale, elle dit « Monseigneur ».
Voilà, donc exemple des résistances auxquelles pouvait se heurter Victor Hugo, donc qui, effectivement... a dû aller jouer sur un théâtre de boulevard, le théâtre de la Porte Saint-Martin, parce que au théâtre français, ces pièces n'étaient pas forcément admises, et qui a même été jusqu'à faire construire un théâtre qui était le théâtre de la Renaissance, pour que le drame romantique puisse trouver son lieu propre d'expression. Est-ce que les acteurs et les actrices, notamment de votre spectacle Christophe Honoré, ont aussi connu des problèmes avec cette langue, qui n'est quand même pas une langue d'une extrême simplicité?
Oui, enfin, des problèmes qui étaient plutôt excitants, en fait, d'ailleurs, pour eux. Déjà, c'est une langue assez dure à apprendre, tout simplement. Enfin, il y a énormément de textes. Et c'est vrai que l'apprentissage, on va dire, du texte était assez complexe, en fait, parce qu'il est, par moments... C'est un système de répétition, énormément, en fait, dans les répliques, et qui sont en même temps très précises, en fait. Donc, c'est jamais exactement la même répétition du même mot, etc. Il y a toujours des décalages. Et c'est vrai qu'on était... moi, je tenais vraiment à ce qu'on l'entende, en fait, ce texte. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris Hugo comme prétexte, et puis après, on fait complètement autre chose. L'idée, quand même, c'était de la faire entendre. Et en fait, cette langue, elle est... Enfin, on en a beaucoup parlé avec Emmanuel Devos et Clotilde M. Elles se sont aperçues qu'elle était vraiment faite pour être jouée. Je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire qu'en même temps, la mise en scène, les intentions de jeu sont vraiment, enfin. On n'a pas travaillé avec un dramaturge, on n'a pas besoin d'expliquer ce texte-là, c'est-à-dire c'est très très précis, c'est-à-dire tous les moments qui sont de l'ordre de la comédie sont déjà en fait dans une syncope, dans une trivialité soudain dans le texte, etc. Et les moments, on va dire, de qui sont plus de l'ordre de la poésie, etc. sont aussi très soutenus, c'est-à-dire que c'est pas dur à jouer dans le sens où il faut accepter de le jouer très premier degré en revanche.
Ça veut dire que, en fait, il y aurait vraiment un concret de la,
c'est très concret.
Un concret de l'écriture, un concret de la langue d'Hugo,
qui ça n'a pas vieilli du
qui tout. Sollicite l'incarnation. immédiate.
Oui, oui, c'est assez étrangement, en fait, parce que souvent les gens pensent que Hugo, on est de l'ordre de la déclamation, pour dire vite, etc. Et c'est vraiment faux, c'est-à-dire que c'est une langue vraiment qui inscrit même les gestes, en fait, au cœur même de cette manière de jouer. Et c'est vrai que moi, en plus, comme j'avais vraiment envie d'un spectacle qui démarre du cinéma, qui aille au théâtre, donc on a démarré avec un jeu un peu cinéma, même en se permettant par moment de faire venir des perches pour que les acteurs, justement, puissent jouer très... très petit. Très honnêtement, on le sent bien aujourd'hui. En fait, le premier acte, il est dur aujourd'hui parce que justement, on a fait ce choix de lutter un tout petit peu contre la langue. Et après, quand on est complètement dans la langue et au contraire, en fait, à partir du milieu du deuxième acte et au troisième acte, en fait, on s'aperçoit en fait qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide et beaucoup moins, en fait, enserré dans un carcan de la mise en scène que au premier acte où on sent que la langue résiste un petit peu à la mise en scène en fait.
Ce qui me paraît aussi caractériser le théâtre d'Hugo, c'est à la fois ce qui est de l'ordre du déplacement et en même temps c'est un théâtre qui est toujours au bord de, il est au bord de la catastrophe, il est au bord de la révélation, il est au bord de l'assassinat, il est toujours au bord de la catastrophe. Ce théâtre est toujours vacillant. Comme l'arête d'un précipice, et tout peut tomber, sauf que ça ne tombe pas.
Mais je crois que c'est parce que c'est un théâtre populaire, tout simplement, en fait, Hugo, quand même. Dans cette idée-là, justement, parce que quand vous dites il est au bord du grotesque par moment, il est au bord du mauvais mélodrame, il est au bord de, notamment dans cette pièce-là. Et je pense que c'est la force, justement, du cinéma d'être un art assez impur, en fait, par rapport à ça, qui n'a pas besoin que la beauté préexiste pour être filmée. Au contraire, le principe du cinéma, c'est de révéler une beauté, mais une beauté qui n'existerait pas auparavant. Et donc, du coup, je crois que chez Hugo, c'est vrai que d'utiliser des outils de cinéma, on va dire, un peu pour mettre en scène ce texte-là, c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que la beauté ne préexiste pas. Il ne suffit pas en fait de se mettre sur la scène en fait et de jouer la scène en fait pour que la beauté du texte en fait arrive. Il faut effectivement le travailler comme vous dites sur des limites en fait, sur une espèce comme ça de frontière assez ténue, et parce que c'est un théâtre finalement assez vulnérable, mais qui prend énormément de risques, en fait. Hugo prend vraiment énormément de risques. Il prend même le risque dans cette pièce-là, mais aussi dans d'autres pièces. On a le droit à des espions, à des portes dérobées, à des clés qui ouvrent des portes secrètes, à des fioles de poison. Et on sent qu'il s'amuse de ça, en fait, énormément. C'est-à-dire que, bon, il a lu Shakespeare, il a énormément. Et on sent qu'il y a une espèce de plaisir, presque de plaisir de guignol, en fait. C'est-à-dire qu'il joue avec le spectateur, avec l'envie du spectateur à un moment qu'on lui raconte une histoire. Il n'a pas peur, en fait, d'exhiber les grosses ficelles de l'histoire. Et en même temps, là-dedans, il arrive en fait à placer des sentiments beaucoup plus nuancés, beaucoup plus sensibles. C'est un théâtre qui n'est pas dans la... qui ne s'interdit rien. Et c'est vrai que peut-être venant du cinéma, du coup, moi j'y ai trouvé une matière où... avec une certaine innocence aussi, je pense, et quelque chose d'assez joyeux, en fait.
Mais alors, justement, Victor Hugo a fait l'objet d'adaptations cinématographiques et non des moindres. Hein. Les Misérables ont été interprétés par Lino Ventura, on s'en souvient. Je crois même que Gérard Depardieu s'est aussi attelé à la tâche dans une autre version
télévisuelle. Il doit y avoir plein de Valjean.
La vie de Victor Hugo, plutôt la vie d'Adèle H, a fait l'objet d'un film par François Truffaut avec Isabelle Adjani. Vous qui êtes justement un cinéaste, vous auriez pu aussi avoir la tentation, et peut-être qu'elle viendra, Christophe Honoré, et comme vous avez aussi fait La Princesse de Clèves, vous le rappeliez tout à l'heure, d'adapter Hugo pour le cinéma. Est-ce qu'il s'y prêterait? Et au fond, la question derrière, c'est est-ce que Hugo est protéiforme au point que tous les arts puissent s'emparer de ce qu'il a laissé comme trace?
Je pense, en fait, parce que c'est un écrivain très visuel aussi, tout simplement, en fait, et qu'il a une force romanesque assez incroyable, en fait, une inventivité dans les personnages et dans les situations qui fait que c'est assez logique que le cinéma se soit intéressé à lui. Après, je crois qu'il y a L'Homme qui rit qui va bientôt être tourné au cinéma.
Ça, c'est l'objet de l'adaptation et de la mise en scène de Marion L'Écrivain qu'on entendra en fin d'émission, en tout cas au théâtre.
Et donc, Après, la difficulté, en fait, pour moi, mais là, je reviens à quelque chose de très personnel, c'est le film historique, en fait. Moi, je ne suis pas sûr d'être très, très à l'aise avec le film historique.
Mais la dimension historique, vous l'avez dépassée en mettant en scène Angelo qui rentre.
Oui, alors voilà, il faudrait faire une sorte de travail sur le texte et d'essayer de l'affranchir. Et en même temps, c'est difficile sur certains textes, en fait, de Hugo, parce que Hugo, quand même, réfléchit beaucoup autour de l'histoire aussi, en fait, du romanesque et de l'histoire. Et donc, je suis pas certain que ce serait pas un peu trop arbitraire, en fait, que de vouloir sortir certaines situations romanesques de leur contexte historique. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai pris énormément de plaisir, en fait, à monter Hugo. En fait, avant de monter Hugo, j'étais allé voir quelqu'un qui s'appelle Guy Rosa, qui est un universitaire qui fait partie comme ça d'un groupe d'Hugoliens qui se réunissent très régulièrement. Et donc quand je lui ai dit que j'allais monter Angelo tirant de Padoue, il m'a dit mais pourquoi monter cette pièce, elle est immontable, etc. Il commençait à me parler d'une mise en scène en 1968 sur un ring de boxe, etc. Je dis, ah bon, ouais. Donc il était très précis, il me disait bon, de toute façon la seule manière que vous avez de monter ça, c'est de monter ça dans un camp de concentration. Je lui dis, ah bon, il me dit oui, parce que vraiment, c'est de l'ordre du côté déshumanisé, en fait. La vision de la société est tellement noire chez Hugo, etc. Et quand je disais non, enfin, que j'allais essayer de faire autre chose, et finalement, il est venu le voir à Avignon, on en a énormément parlé après. Mais c'était assez amusant, en fait, cette manière dont soudain, en fait, comme si Hugo est... Il est l'or du génie quand même, alors ça paraît toujours étrange, mais j'ai l'impression qu'on peut tout projeter sur lui. Et c'est vrai que du coup, je serais pas surpris en fait qu'il y ait des vagues hugoliennes régulièrement, que ce soit au cinéma ou que ce soit au théâtre. En même temps, au théâtre, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas été monté d'une manière un peu...
Officielle, disons. En tout cas, dans les salles, voilà. Dans les salles très visibles, effectivement.
C'était
le retour. C'était un peu long.
Voilà, ça faisait longtemps. Je me souviens de la mise en scène de Vigné de Marion Delorme, mais qui date quand même d'une quinzaine d'années maintenant. Et je me dis que forcément, Olivier Py, un jour, à l'Odéon, va forcément monter un Hugo. Et je ne vois pas comment il pourra éviter de monter un jour un Hugo.
On va revenir à une dernière séquence d'archives où on va entendre Louis Jouvet, de nouveau, qui aura décidément commenté l'œuvre de Hugo tout au long de cette émission. Et juste derrière lui, un extrait de la légende des siècles, lu par Jean-Paul Roussillon.
Victor Hugo, lorsqu'il naquit, le siècle avait 2 ans. Enfant sous l'Empire, adolescent sous Louis XVIII, Charles X l'a vu grand homme et écrivain célèbre. Après le succès des Odes et des Orientales, Hugo pense au théâtre et il écrit Cromwell. Nous sommes en 1827, il a 25 ans. La préface de la pièce restera plus célèbre que la pièce elle-même. On l'a prise pour ce qu'elle n'est pas, une introduction au drame romantique. En réalité, elle contient les idées toutes particulières de Hugo sur le théâtre. La théorie singulière du grotesque. Hugo sera seul à l'appliquer, ni Musset, ni Vigny, ni Dumas n'auront le souci d'en pimenter leurs œuvres. Victor Hugo distingue 3 âges dans l'histoire de l'humanité. L'âge primitif, l'âge antique et l'âge moderne. À ces 3 âges correspondent, dit-il, 3 formes poétiques, le lyrisme, l'épopée et le drame. Le drame qui est, selon lui, la forme la plus parfaite du théâtre, qui réunit le beau et le laid, le sublime et le grotesque. Il s'en fait le champion, il s'insurge contre la séparation des genres, ironise sur les règles, il n'en reconnaît qu'une seule, l'unité d'action. Il la reconnaît, mais ne la pratiquera que rarement. Stendhal, d'autre part, veut qu'on évite le style tendu, l'inversion des images et le jeu des métaphores. Victor Hugo, lui aussi, accumule encore les interdictions. Défense d'utiliser le discours politique pour ne pas imiter Corneille, le discours psychologique pour ne pas imiter Racine, défense de peindre des héros ou des princes pour ne pas imiter la tragédie.
En partant du golfe de Trente, nous étions 30, mais en arrivant à Cadix, nous étions 10. Tom Robin, matelot de Douvres, au phare nous abandonna. Pour aller voir si l'on découvre Satan que l'archange enchaîna, quand un bâillement noir en trouve la gueule rouge de l'Etna. En partant du golfe de Trente, nous étions 30, mais en arrivant à Cadix, nous étions 10.
Dernière séquence de cette émission, aujourd'hui consacrée à Victor Hugo sur France Culture, en votre compagnie, Christophe Honoré, et avec également Marion L'Écrivain, que nous allons retrouver à la fin de l'émission pour un reportage à la maison Victor Hugo. Je voudrais qu'on aborde avec vous ce côté, justement, dont on parle aussi au sujet de Victor Hugo, qui revient tout le temps, comme le romantisme lui colle à la peau, comme effectivement la dimension politique lui colle à la peau. Ça n'aura pas été l'objet de l'émission aujourd'hui, puisqu'on est plutôt axé sur le théâtre. Mais j'aimerais qu'on parle de ce côté visionnaire ou prophétique, voire même prophétique, qu'on prête à Victor Hugo. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous êtes sensible, vous ? Vous avez fait un peu allusion d'une certaine manière en disant que voilà, il y a chez lui tant et tant de choses que finalement on peut y projeter absolument tout ce qu'on veut. J'ai l'impression que vous disiez aussi bien toutes les formes que l'on envisage que toutes les idées finalement que l'on peut essayer d'y lire. Est-ce que Hugo, pour vous, Christophe Honoré, a quelque chose du poète visionnaire ?
En tout cas, c'est comme ça que lui se définissait C'est un des actes du romantisme, justement, de dire que les prophètes, que les poètes sont des prophètes et qu'ils annoncent soit la catastrophe à venir, soit au contraire un monde meilleur à venir. En tout cas, il y a quelque chose. Je sais pas. Par rapport à ces choses-là, moi, je suis assez
dubitatif.
Non, pas dubitatif. En même temps, il y a quelque chose en tout cas qui est évident, c'est que quand vous relisez Hugo aujourd'hui, vous n'avez pas une impression de lire. Enfin, je veux dire, par exemple, quand je travaillais quand même sur Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, c'est quand même un texte qu'il faut attaquer un peu au burin, quoi. Enfin, c'est pas très élégant ce que je dis là, mais où vous êtes obligé quand même de. Oui, vous avez besoin. C'est une langue un peu étrangère, voilà, tout simplement. Et la langue d'Hugo est vraiment pas une langue étrangère. C'est assez impressionnant comme c'est une langue qui devait avoir une très grande modernité à l'époque, qui certainement, du coup, ce qu'on peut comprendre, du coup, choquait en fait les acteurs de l'époque, etc. Et qui aujourd'hui passe très très facilement en fait. Donc dans ce sens-là, il y a certainement quelque chose de l'ordre du visionnaire. Quand on parlait tout à l'heure de le théâtre que réclamait Hugo, effectivement. Alors peut-être parce que je suis cinéaste, j'ai l'impression que finalement ce qu'il réclamait, c'était l'arrivée du cinéma.
Oui, il y a une plasticité quand même de la forme hugolienne qui fait qu'on peut imaginer que tous les arts peuvent s'emparer de ce qu'il a écrit. Et d'ailleurs, si on y réfléchit bien, il a été lui-même protéiforme dans sa façon de pratiquer l'expression artistique, puisqu'il n'y a pas que l'écriture, il a aussi dessiné et ses dessins sont très intéressants. On en parlera avec Marion l'écrivain, et puis il a aussi essayé la photographie, dès que la photographie a pu lui tomber dans les mains. Donc c'est un homme qui était de toute évidence curieux de toutes les manifestations artistiques.
Oui, oui, et puis qui dans un sens faisait feu de tout bois. Enfin, oui. C'est cette idée qu'effectivement on ne doit pas en fait se borner à un seul terrain, et que le terrain de l'artiste justement c'est un terrain qui l'artiste est pertinent dans tous les domaines, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pour le coup, semble vraiment plus d'actualité. Ou au contraire, on a tendance, comme ça, à enfermer un petit peu les artistes dans leur domaine d'expression. Il y avait une proximité de Hugo, en fait, avec son public aussi, tout simplement. Enfin, alors après, je sais que c'est aussi la légende de Hugo, etc., ses funérailles nationales et tout ça. Mais c'est quand même un peu insensé. Enfin, on ne voit pas aujourd'hui un écrivain décédé et avoir comme ça tout le peuple de Paris derrière lui.
Oui, donc, et puis reposer toute une nuit au pied de l'Arc de Triomphe pour que les spectateurs puissent venir saluer une dernière fois la dépouille.
Donc c'est vrai que
quand c'est effectivement exceptionnel.
Alors on peut dire que c'est une espèce de culte de la personnalité, que ça peut être aussi dangereux, mais en même temps ça veut dire quelque chose sur la place de l'art dans cette société à ce moment-là, et la place de l'artiste en tout cas, et qui aujourd'hui s'est vraiment dégradé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc là-dessus, je dirais pas qu'il a été visionnaire, mais il a été peut-être le dernier, surtout. Je pense qu'il y a aussi un côté ultime finalement chez Hugo. Alors avec aussi tout ce que ça a d'en phase et par moments de ce que disait tout à l'heure, je crois que c'était Jouvet, qui disait cet énorme poète, et faut-il dire hélas quand on dit énorme. C'est vrai qu'il y a un côté comme ça gigantesque du coup. Même quand vous commencez à travailler sur Hugo, moi à un moment, un peu naïvement, je me suis dit bon, alors on va relire Hugo, et c'est juste impossible. C'est-à-dire que vous commencez... Les Misérables, par exemple, j'avais oublié que c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée que c'est presque... C'est pas humain de lire Hugo, et pourtant ça a dû être humain d'écrire. Et là-dessus, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir en fait la somme, mais vraiment considérable en fait de d'écriture et de formes différentes. Parce qu'entre nous, on s'est amusé en fait parce qu'on a mis deux chansons dans qui n'était pas Avignon d'ailleurs, qu'on a mise depuis, où du coup on a recherché dans ses poèmes, etc. Et à un moment on s'est dit, bon, il a dû écrire des chansons. Bah oui, évidemment, il a écrit des chansons. Donc c'est, il y a comme ça quelque chose d'assez incroyable, d'une espèce de... Oui, comme s'il était ouais, dissous partout, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, une que rien ne lui échappe, et que du coup, c'est vrai que c'est pour, je pense, pour des créateurs d'aujourd'hui, à partir du moment où vous commencez un peu à vous intéresser à Hugo, il y a forcément quelque chose, en fait, chez lui qui vient résonner chez vous.
Discours à l'Assemblée législative, 17 juillet 1851.
Qu'espérez-vous détruire la République? Vous entreprenez là une besogne rude, y avez-vous bien songé? Quand un ouvrier a travaillé 18 heures, quand un peuple a travaillé 18 siècles, et qu'ils ont enfin l'un et l'autre reçu leur paiement, allez donc essayer d'arracher à cet ouvrier son salaire et à ce peuple sa République. Savez-vous ce qui fait la République forte? Savez-vous ce qui la fait invincible? Savez-vous ce qui la fait indestructible? C'est quelle est la somme du labeur des générations, c'est quel est le produit accumulé des efforts antérieurs, c'est quel est un résultat historique, autant qu'un fait politique.
Mais alors justement, je voudrais qu'on finisse quand même par mentionner ça et qu'on finisse là-dessus avec vous, Christophe Honoré. Voilà un homme qui va être en proie à des responsabilités politiques, qui traverse le 19e siècle, qui voit arriver la République, qui évolue lui-même personnellement de la monarchie à la démocratie, qui se bat contre la peine de mort, qui se bat pour le suffrage universel, qui se bat pour la liberté de la presse, qui pour toutes ces raisons-là va être en exil pendant 20 ans à Bruxelles, puis Jersey, puis Guernesey. Donc voilà un homme qui coïncide littéralement avec son siècle, qui est, comme on le disait au début, c'est une phrase un peu bateau, mais c'est une phrase réelle en ce qui concerne un écrivain engagé dans son temps. Est-ce que cette dimension-là, d'une part, est une dimension qui vous le rend sympathique, qui vous le rend proche, et d'autre part, est-ce que ça peut avoir encore aujourd'hui un caractère d'exemplarité pour l'artiste que vous êtes, Christophe Honoré, vivant aujourd'hui dans sa société en 2010?
Ah oui, c'est d'admiration et le côté exemplaire, ça c'est clair. Après, on se sent nous-mêmes très mesquins. C'est-à-dire si on compare un petit peu nos, enfin moi je sais pas, dans les quelques combats, on va dire auxquels j'ai pu m'engager, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est très très mesquin par rapport à la force.
On vous souhaite pas d'être exilé à Guernesey pendant longtemps.
En même temps,
pas bon, en arriver là quand même.
Il y a tellement de points communs entre justement, c'est assez amusant en fait, des textes de Hugo sur Napoléon III. On a l'impression qu'il pourrait être écrit aujourd'hui en fait sur Sarkozy et notamment sur cette idée comme ça du surpouvoir, etc. Mais je pense qu'après il y a une évolution. C'est aussi tout simplement, j'allais dire, que l'artiste ne fait plus autorité aujourd'hui, tout simplement. Alors que je pense que Hugo faisait autorité.
Merci Christophe Honoré. Nous arrivons donc au terme de ces mercredis du théâtre qui sont aujourd'hui consacrés à Victor Hugo, avec vous qui nous avez servi à la fois de miroir et de guide. Et pour conclure cette conversation, je vous propose une petite balade au cœur de Paris et plus précisément à la maison Victor Hugo, où nous avons retrouvé une jeune femme, Marion l'écrivain. Elle a décidé de s'attaquer, elle, à Victor Hugo par le versant roman et non par le versant théâtre. Et c'est une adaptation de L'homme qui rit qu'elle met en scène au théâtre de la Courneuve. Pour elle, cette maison Victor Hugo n'avait plus de secret. Visite guidée donc de la maison Victor Hugo en compagnie de Marion l'écrivain.
En fait, c'est pas qu'il n'est pas si vieux. Et dans son écriture, il y a quelque chose justement qu'on a beaucoup, beaucoup, enfin, dans le travail, en tout cas nous, de notre côté, assimilé à Rimbaud, un côté. Nous, on bosse L'homme qui rit, il l'a écrit à 67 ans, et on a l'impression qu'il raconte ça avec la verve d'un auteur de 20 ans. Il vomit un truc comme ça, énorme, une construction fort, foisonnante. Et puis d'un seul coup, il en sort des éclats, des essences, enfin quelque chose de l'ordre de l'essence. Une petite chose comme ça, et on revient à l'essentiel. Et du coup, sa place, la parole se place comme quelque chose de simple, de clair, de droit. Son écriture, elle est tellement énorme qu'elle permet de revenir à des choses essentielles qui font qu'on peut croire en l'individu, en quelque chose de fort, de grand. On n'est pas simplement une masse qui subit. Il soulève une colère, il soulève une naissance. Moi, c'est la même violence qu'on revient au ventre de la mère et c'est exactement la même violence. Il cherche vraiment une œuvre complète, à la fois littéraire, artistique, romanesque, intellectuelle et presque parfois universitaire. Il essaie de raconter une histoire avec des fragments de tout ce qui nous compose, nous, de tout ce qui compose la société, comme ça. Alors là, nous trouvons Marion l'écrivain au deuxième étage de la maison Victor Hugo, qui en fait, vous me le disiez, parce que vous connaissez cette maison assez bien, vous y êtes beaucoup venu pour préparer le spectacle et sans doute pour travailler Victor Hugo, qui est en fait l'appartement qu'occupait Victor Hugo. Décrivez-nous un peu à quoi ça ressemble cet appartement de Victor Hugo.
Une grosse maison, je crois.
Grosse maison bourgeoise, oui.
Grosse maison bourgeoise. Mais c'est ça qui est rigolo. C'est exactement Victor Hugo dans l'inconscient collectif, comme on l'imagine. Gros, rouge, plein de peinture, justement un mélange de presque de toutes ces rencontres, de tous les pays. Il était curieux. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il était empreint de tous les pays, de tous les êtres. Il cherchait vraiment à rencontrer tout, à voir tout. Il était curieux de tout. Et c'est ça qui est intéressant, du coup, dans son œuvre. C'est se demander, nous, du coup, à quel endroit on est curieux. Et du coup, c'est riche. Cette richesse-là, ben, comment on voit même dans les œuvres qui se baladent dans cette maison, justement.
Beaucoup de peinture, beaucoup de dessins.
Oui, ben, y a comme quelque chose où même les œuvres qui viennent de manière temporaire, et ses œuvres à lui... On sent que dans chaque œuvre, il y a plein de choses, mais ça pointe toujours quelque chose de positif chez l'être humain. Comme les visages, il y a toujours un espoir, quelque chose de grand derrière, comme un regard, un sourire qui nous dit « Attention, regardez-moi de plus près, j'ai quelque chose à vous dire. » Et ça, c'est lui, j'aime bien. Parce que lui disait d'ailleurs, en plus de son travail, de ses œuvres, que ce qu'il écrivait ne lui appartenait pas, que c'était public. Et donc, ça demande le regard, quoi. Et c'est vraiment une ouverture, du coup, du champ imaginaire. C'est aussi pour ça que je travaille Hugo. C'est que c'est pas simplement un homme qui nous donne des choses, qui nous apprend... des choses de l'histoire, de l'art, non. C'est quelqu'un qui, justement, par une construction rigide, comme la maison d'ailleurs, très rigide, avec ses grandes tentures, ses grandes peintures, eh bien, d'un seul coup, en fait, ce foisonnement fait que nous, on n'a qu'à ouvrir notre imaginaire à ce cadre, quoi. Et c'est ça qui est bien. Et ce romantique qu'il a, ce côté grandiloquent, baroque parfois, même appel au surréalisme, à quelque chose, c'est bientôt, juste après, ça va devenir complètement, je sais pas comment dire, j'aurais bien voulu qu'il rencontre Soupeau, par exemple, ça aurait été super, et c'est ça qui m'intéresse, donc c'est l'ouverture des images, et c'est revenir au rêve, c'est-à-dire qu'il arrive à nous donner du rêve, tout en partant de la réalité, et moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment... C'est une chance de l'avoir, parce que c'est ce qui manque.
Il y a un buste de lui là-bas, devant lequel plusieurs personnes sont attroupées. C'est un buste de lui en marbre blanc, apparemment, ou en tout cas en pierre blanche. Étonnant, parce qu'on ne le connaît pas si beau, finalement, Victor Hugo. Vous le trouvez beau, vous, quand vous le regardez, Marion l'écrivain ? Pas tant que ça.
Il a l'air sérieux, en fait. C'est toujours le problème du patrimoine. Mais en même temps, c'est pas mal, parce qu'il y a un côté rodin. Un côté...
Rodin qu'il a rencontré d'ailleurs à la fin de sa vie. Hein.
Complètement. Mais moi ça par contre, c'est du coup toute l'ambiguïté, c'est que j'aime bien l'idée de sentir comme ça des hommes. On a besoin de cette force, ce côté grand, rude, un grand homme assis, posé, sûr de ses convictions. Et puis en même temps, s'il se mettait à marcher, le buste, c'est ça qui est génial. C'est d'imaginer qu'il se met à marcher. Moi ce que je voudrais, c'est que d'un seul coup, quand on lit... ce qu'il écrit, on a vraiment l'impression qu'il va, vous savez, qu'il va se casser comme un fantôme, ouvrir les yeux et nous dire « écoute, regarde », un peu comme ça, j'aime bien ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment ludique, en fait.
Alors, le buste est encadré par deux grands tableaux, dont un tableau où on voit un homme tenant une petite fille dans ses bras. Je me demande si c'est Léopoldine, on s'approche. Marion l'écrivain,
donc de ce tableau, cette huile. Et c'est son fils Victor, en fait. Nombreux enfants de Victor Hugo vont mourir prématurément. Il a été quand même marqué par la tragédie à plusieurs reprises. Là, vous le trouvez pas beau, là, sur le tableau. Ben, l'homme élégant, quand même.
Si, parce qu'il est serein.
Et il est jeune aussi.
Ouais, il a quel âge, là? On ne sait pas. 36. Bon, il a 30 ans. On sent qu'il est sûr d'une chose, qu'il a sa ligne, qu'il s'arrête, enfin, qu'il ne s'arrêtera pas. C'est comme s'il posait ses yeux devant l'horizon. Souvent dans ses œuvres, on retrouve la mer. Et il y a une expression dans L'homme qui rit qui est très belle, c'est il parle de déboucheurs, de bouteilles de l'océan. Et je trouve qu'il se place à cet endroit-là. Il a une prétention très bien placée. L'homme est grand. Et son désir doit être grand. Et son regard, ça parle de courage. C'est-à-dire, c'est un homme qui n'aime pas la lâcheté. Et toute son œuvre, pour moi, c'est la base. C'est qu'il est contre la lâcheté. C'est la pire des choses. C'est un peu comme ses peintures, en fait. Souvent, on voit beaucoup de tumultes, de mouvements autour. Et toujours au centre, ou dans un coin, il y a une chose pure. Il y a soit un château, un pendu tel quel, ou sinon une grande tour. Et cette chose-là est face au monde et dit non. Enfin, il y a quelque chose d'aussi puissant que l'ensemble, en fait.
On continue, Marion l'écrivain.
Il ignore où il est.
Il ne sait rien.
Il ne sait rien.
Sinon que sinon, ceux qui sont venus avec lui au bord de cette mer s'en sont allés sans lui. Il se sent mis hors de la vie. Il sent l'homme manqué sous lui. Il a 10 ans.
Hugo dit que le monde, c'est un esquif sans voile et qui sent sous ses pas la terre trembler et tout doucement s'enfoncer. Mais que comment arriver à rester debout même si... Et son écriture, c'est ce mouvement-là. De remonter. Et du coup, il y a toujours une petite lumière dans ses œuvres. Il y a toujours comme une servante au théâtre, en fait. Même si elle est toute petite, cette lumière, elle est toujours là, comme un espoir, comme un renouveau. Et ça, c'est vraiment la parole du peuple qui se soulève, c'est-à-dire qui est endormi, qui attend comme ça, qui est là. Et comment, avec sa parole, avec son écriture, il tente de l'élever, de dire non. Vous êtes plus fort que ce tumulte, en fait. Donc même s'il a parfois un discours noir, rugueux, terrible, il y a toujours de l'espoir. Alors que sa maison est très structurée, enfin je veux dire très précise, tout est très droit, très, très parallèle, tout s'accorde. D'un seul coup, dans ses dessins, il y a quelque chose de plus flou, de plus nuageux, de plus... dans le rêve, quelque chose qui demande que je dis spectateur, mais un peu spectateur quand même, on a l'impression de rendre, quand on regarde, si on tient devant, on voit les choses bouger. Il y a vraiment, on sent qu'il demande, qu'on imagine ce qu'il y a derrière le nuage. Qu'est-ce que ça pourrait être la lumière ? Et il y a toujours quelque chose au fond comme un mystère. C'est-à-dire celui-là, le Mont Saint-Michel, ben, on ne saurait pas que c'est le Mont Saint-Michel, on ne dirait rien. Et pourtant, il est tout au fond, tout petit. Vraiment, il est là. Et du coup, on l'imagine. Il donne tout l'univers autour. Et justement, l'essentiel, c'est à nous de le voir. Et donc, comment raconter cette histoire? Comment le mettre sur un plateau? Ça, c'est fascinant, vraiment. C'est-à-dire prendre vraiment l'œil du spectateur. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qu'il demande. L'œil du spectateur comme presque un morceau de sa scénographie, un morceau du texte. C'est-à-dire, c'est aussi une parole. D'un seul coup, il demande, il réveille les sens. Et il demande un spectateur actif. Et ça, c'est passionnant par rapport au théâtre d'aujourd'hui, parce que beaucoup se posent cette question. Et je trouvais que moi, par rapport à mon âge, c'était bien de partir d'un homme comme ça, qui déjà, à l'époque, se posait cette question. C'est pour ça que je trouve que c'est un visionnaire, vraiment. Il va au-delà. Et son œuvre, elle est infinie.
corazón a tu negro caparazón.
Il était toujours très tendu et faire avec le temps présent et doit être lancé à la figure du spectateur, et nous, à chaque instant, on doit faire avec cette écoute. On ne peut pas faire comme si le spectateur était là, qu'il avait simplement payé sa place et qu'il regardait une belle chose. Et on est vraiment obligé de tendre avec le spectateur une écoute particulière. Parce que lui, chaque mot est pesé. C'est un engagement permanent. Et ça, c'est pas nouveau, c'est presque une base, mais avec lui, c'est... On peut pas passer en dessous, sinon ça marche pas.
Merci à Émilie Trassante et Sophie Gilry pour les recherches d'archives à l'INA, assistante d'émission Anne de Biron.
C'était Les Mercredis du Théâtre, le théâtre de Victor Hugo avec Christophe Honoré et Marion l'écrivain, une émission de Joël Gaillot, diffusée la première fois le 10 février 2010 sur France Culture. Réalisation Françoise Camard-Mercier.